I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie?
Je vous en prie.
Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
Au commencement était l'action.
Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond.
En fait, si tu te lances pas, tu verras jamais, quoi. Donc, faut avoir une idée, se lancer, et tu peaufines ensuite. Vaut mieux avoir des remords que des regrets, tu vois. Au moins, t'auras pas de remords de pas avoir fait, quoi.
Je suis Sarah Crosetti, et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages pour que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer. Aujourd'hui, je rencontre Mathilde Cabana, entrepreneure, créatrice de la marque éponyme d'objets et d'accessoires qui donnent le sourire, comme elle aime le dire. Vous l'avez peut-être découverte grâce à son bisou ou lors d'une collab colorée avec de grandes marques comme Bic, Lotus ou encore Bourjois. Pourtant, Mathilde a commencé par l'illustration avant d'être à la tête d'une véritable marque lifestyle. Elle raconte ici son parcours, son début dans la vente avant de pouvoir se lancer à 100% sur sa marque, les galères de production et ses premiers salons maison et objets foireux. Bref, une véritable histoire d'entrepreneuriat qui file la banane et la volonté de ne jamais rien lâcher. J'espère que cet épisode vous inspirera autant que Mathilde devant ses palettes de couleurs.
Eh ben merci beaucoup Mathilde pour ta présence, pour ta voix sur ce podcast.
Merci Sarah d'avoir pensé à moi et de m'avoir invitée.
Ouais, je suis ravie vraiment de t'avoir sur le podcast. Ça fait longtemps que je te suis en plus. Donc ravie, même si tu as déjà raconté beaucoup ton histoire, je pense qu'il y a des choses que tu n'as pas encore racontées.
À chaque fois, je trouve des nouvelles anecdotes, t'inquiète.
Et du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Je m'appelle Mathilde Cabanas et j'ai une marque qui porte mon nom d'accessoires et d'objets du quotidien qui donnent le sourire. J'aime bien dire ça parce que c'est vraiment ce que j'aime faire et ce que j'ai envie de faire.
Et alors, si on revient un peu sur ton parcours, est-ce que toi, dès le début, tu sais que tu as envie de faire quelque chose d'un peu créa ?
Qu'est-ce que tu appelles dès le début ? Genre à 3 mois de vie ou...
Non, je dirais, je ne sais pas, à l'adolescence, enfin, quand tu commences un peu à te poser des questions.
Ouais. J'ai toujours eu une grande part de créativité en moi. Mes parents sont tous les deux assez créatifs. Mon père, il est artiste peintre. Et ma mère, elle est infirmière à domicile, mais elle a toujours vachement bricolé. Elle faisait des chaises en mosaïque, pas possible. Enfin, elle était vachement manuelle. Et je pense que j'ai hérité de ça, du coup. J'aimais beaucoup les arts plastiques. J'ai toujours été inscrite à des cours de dessin, des cours d'art plastique. C'était vraiment ma façon de m'exprimer.
Ok, oui, donc toi, il n'y a pas eu vraiment de contraintes ou ce qui peut se passer parfois quand tu as des enfants qui sont assez créa, d'avoir les parents qui te...
Non. En vrai, je pense que mon père s'attendait à ce que je fasse un truc un peu plus... un chemin un peu plus tracé et je pense qu'il avait, tout, comme n'importe quel parent qui a un enfant créa, il avait peur que je ne trouve pas de travail et que ce soit compliqué, etc. Parce que forcément, dans les milieux artistiques, c'est moins facile. Je ne dis pas que c'est impossible. Et donc, de côté de mon père, c'était un peu ambigu, alors qu'il est quand même artiste peintre, mais il a un boulot de journaliste en plus. Et par contre, ma mère, elle nous a toujours laissé vachement libres et tout ce qu'elle voulait, c'est qu'on soit épanouis. Donc, j'ai pas... Non, les parents, ça a été.
Et quand tu commences tes études, tu sais déjà à un moment que tu vas avoir ta propre marque, ou ça c'est venu beaucoup plus
tard? Pas du tout, ça m'est un peu tombé dessus, entre guillemets. Je le dis souvent, mais si j'avais réfléchi en amont à monter ma marque, mais alors déjà, quand j'ai monté ma marque en 2013, donc ça fait plus de 10 ans, je l'ai fait parce que j'étais auto-entrepreneur et je l'ai fait un peu pour déduire les frais, tu vois ce que je veux dire ? Les frais d'impression, les frais de prod, etc. Parce que du coup, tu payes tout ça de ta poche quand tu es auto-entrepreneur. Et donc, j'avais monté ma marque comme ça, juste pour l'aspect pratique. Et je l'ai appelée par mon nom parce que je signais mes illustrations à l'époque de mon nom. Mais si, et il y a 10 ans, il y avait beaucoup moins cette tendance de monter son entreprise. Aujourd'hui, un peu tout le monde, c'est très à la mode d'être entrepreneur. Et c'est beaucoup plus simple et mis en avant, mis en valeur. Moi, je ne savais pas. C'était vraiment par pur hasard. Et d'ailleurs, oui, ce que je dis souvent, c'est que je n'aurais pas appelé ma marque Mathilde Cabanas si j'avais dû monter ma marque, tu vois.
Pourquoi ?
Parce que, en fait, par exemple, les designers de fringues font ça, genre Jacques Musse, Isabelle Marant, etc. Mais dans le milieu du commerce, souvent, tu as une marque, c'est jamais le nom de la créatrice, et c'est aussi toujours un peu compliqué. Par la suite, si tu veux revendre ta marque, etc., c'est pas quelque chose que je conseille. Après, ça a l'avantage de... Et ce que les gens aiment, c'est que c'est incarné, tu vois. C'est que la marque, c'est moi. Et ça parle aux gens. Ils ont envie d'une vraie histoire, tu vois. Mais c'est pas... C'est vrai que j'aurais aimé réfléchir à un nom de marque, tu vois.
Ouais, ok, non, je comprends. Et alors, attends, parce que toi, quand t'es... Donc, au début, t'as ton métier d'illustratrice. Ça se passe bien. T'as pas eu cette phase...
Alors, c'est on rembobine. J'ai pas été direct illustratrice, donc j'ai fait une année de prépa aux arts appliqués en sortant du lycée, en sortant du bac. Et ensuite, j'ai fait une école de communication visuelle, donc qui t'apprend surtout à être graphiste, tu vois. Et parce que je m'étais dit, bon, il faut que j'ai quand même un job sérieux et valide qui me rapporte un salaire. Graphiste, c'est ce qui se rapproche le plus du côté créa que j'aime. Sauf que spoiler alerte, je n'étais pas du tout faite pour ça. Je pense qu'il y a un côté hyper carré et tout que je n'ai pas. Et ça m'enfermait trop dans une case. Donc, j'ai quand même eu le diplôme après 5 ans d'études. Et c'est là où mes parents ont un peu fait la gueule parce qu'ils ont quand même payé ces études. Je ne trouvais pas de boulot qui me plaisait. Parce que forcément, tu vois, aucune expérience, tu sors de tes études, tu vas faire de la mise en page dans un magazine, tu vas faire de la mise en page pour un journal.
C'est stimulant.
Voilà, un journal, je dis souvent, c'était faire du vélo ou des trucs pas du tout créa, quoi. Moi, je rêvais devant le Milk, les magazines Doolittle, etc. J'ai toujours une grande sensibilité pour tout le milieu de l'enfance, la déco kids, la mode kids, etc. Et donc, toujours est-il que je sors de mes études, je vois ce qui m'était proposé en emploi et je me suis dit, mais je n'ai pas choisi un boulot créa pour faire un job qui m'ennuie, quoi. Donc, j'ai décidé de faire vendeuse à temps partiel dans une boutique qui me stimulait énormément. Et à l'époque, c'était Bonton Bazar, rue du Bac, un des premiers concept stores vraiment qui existait. À chaque fois que j'ouvrais un carton, qu'on recevait des trucs, j'étais en extase parce que, tu sais, c'était à une époque aussi où il n'y avait pas du tout Internet. Il n'y avait pas Instagram, il y avait Internet. Il n'y avait pas tout ce shopping online que tu peux faire dans les pays étrangers et tout. Donc, on recevait vraiment des produits qui n'existaient pas ailleurs, qu'on ne voyait pas ailleurs. Donc, c'était vachement stimulant. J'ai toujours eu cette approche du produit. J'ai toujours aimé les objets. Et donc, je me suis dit, je vais bosser dans cette boutique qui me stimule, que je trouve chouette, qui me fait rêver, même si le job de vendeuse, c'était pas ma tasse de thé, je me sens pas faite pour ça. Et en attendant, je vais développer ma clientèle en freelance, quoi. Sauf qu'évidemment, au début, comment tu fais pour développer ta clientèle en freelance ? Enfin, t'as aucun réseau. Mais en fait, étant à Paris, Bonton, c'était quand même... un petit milieu. Et puis en plus, moi, c'est vraiment là où je voulais aller, la mode kids, le milieu déco, tendance kids. Donc, j'étais au bon endroit. Et j'ai commencé par vendre de la papeterie chez Bonton. Et c'est là où ma marque a commencé, en fait. Les acheteuses m'ont acheté, les acheteuses de la boutique m'ont acheté des produits et j'ai vraiment, je suis rentrée dans le monde du wholesale, c'est-à-dire il faut que j'imprime, que je crée, que j'imprime ma carte, j'achète les fournitures, enveloppes, petites pochettes plastiques, etc. Je compte mon temps, combien cette carte va me revenir et combien je dois la vendre pour gagner ma vie, tu vois. Parce que derrière, la boutique se fait aussi une marge.
Et du coup, tu arrives quand même en faisant ça de manière hyper artisanale à proposer des prix qui sont qui rentrent dans les...
Je pense que je ne rentrais pas du tout dans mes frais au début, surtout que je faisais tout manuellement, tu vois. Mais ça m'a mis un pied dedans et c'est comme ça que ma marque a démarré. Après, je me suis professionnalisée, j'ai commandé des produits où j'envoyais juste le design aux fournisseurs et ils arrivaient tout fait, tu vois. J'avais plus ce truc de « faut que je mette dans les enveloppes, dans les pochettes, etc. » Et donc, donc voilà, ça a commencé par la papeterie. Après, j'ai développé d'autres produits, etc.
Est-ce que tu as des souvenirs galères de cette période-là ?
Non, 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 c'était très joyeux. Après, moi, j'occulte souvent les souvenirs, galères. Mon mec, à l'époque, mais avec qui je suis toujours aujourd'hui, me rappelle très souvent que c'est lui qui faisait la petite main devant la télé le soir à mettre les enveloppes dans les pochettes. Donc, j'ai eu de l'aide et c'était excitant, en fait. Tu vois, j'avais un océan de possibilités devant moi. Et par contre, j'ai un souvenir aussi très clair de... Chez Bonton, les filles gravissaient les échelons, tu vois, tu commençais vendeuse et tu pouvais vite finir au bureau, c'est-à-dire devenir acheteuse, graphiste, faire de la com, tu vois, parce que c'était très familial et donnaient les fondateurs, Irène et Thomas, ils donnaient leur chance surtout, en fait, ils n'allaient pas vraiment embaucher ailleurs, ils donnaient leur chance aux filles qui étaient en boutique, ce qui était génial. Donc moi, j'avais cet espoir d'aller au bureau parce que je ne m'épanouissais pas du tout dans le métier de vendeuse. Et même si je me suis fait parmi mes meilleurs amis là-bas et il y avait vraiment une ambiance géniale et tout, j'avais espoir d'évoluer comme ça. Et une des filles du bureau, une des acheteuses m'a dit, et je l'ai gardée vraiment au fond de moi, « Non mais attends, t'as un truc spécial, toi, t'es pas faite pour aller au bureau, t'es faite pour avoir ta propre identité, ta propre marque, faire ton propre chemin, quoi. Arrête d'essayer d'aller au bureau, tu vas y arriver par toi-même. » Et ça m'a vraiment donné confiance en moi et de l'espoir de... Parce que c'est vrai que sur le moment, c'est long, tu vois, j'ai quand même fait, je sais pas, 4 ans là-bas. Après, c'était en mi-temps, mais quand même, tu vois, je me disais, mais je vais pas faire ça toute ma vie, même si total respect pour les gens qui font ça, en fait. C'est juste que moi, c'était pas mon plan et c'était pas ce que j'avais envie de faire et ce pour quoi j'étais douée, quoi.
Ouais, donc il y a quand même des moments où malgré tout, tu vends quand même des produits, ce qui est super.
Ouais.
Mais tu te poses quand même la question de quand est-ce que tu vas réussir à switcher sur un 100% sur ta marque.
Full time sur ma marque, ouais.
Et du coup, ça arrive comment ? Parce que donc, tu as ce job de vendeuse, donc tu commences à vendre de plus en plus via Bonton. Et est-ce qu'à un moment, il y a un déclencheur ou quelque chose qui fait que ça va s'accélérer ?
Alors déjà, c'était une super vitrine d'être vendue chez Bonton, puisque à l'époque, tu avais un peu les acheteurs du monde entier qui faisaient le Triangle d'Or, Bon Marché, Conrad Shop qui était en face, Bonton. Et Merci aussi, mais Merci, c'est arrivé après. Et donc, ils voyaient ma marque, ils voyaient mes produits et ils me contactaient. Ils tapaient Mathilde Cavenas, paf. Et du coup, je gagnais des clients, des revendeurs, des boutiques comme ça. Donc ça, c'était quand même génial. C'était assez facile. Et je me suis dit, je vais faire un salon professionnel pour trouver des revendeurs. Donc, j'ai fait mon premier salon maison objet, qui est quand même un énorme budget, en septembre 2014. Et j'ai quitté Bonton en 2015.
Ok.
Ce qui m'a aidée, c'est que mon mari a été muté à Nantes Et comme on a on vient de Nantes à la base et on a notre famille là-bas, on a bougé à Nantes. Donc, je me suis dit, c'est le moment. Je lâche mon boulot à temps partiel chez Bonton et je me mets full-time sur ma marque.
Ouais, il y a quand même eu une période où, effectivement, tu ne peux pas lâcher une branche, tu vois.
Voilà, il faut quand même avoir un petit tapis, une petite marche en dessous pour sauter, quoi.
Ouais, ok. Mais tu avais quand même une grande part d'inconnu.
Ouais, alors après, je suis assez... je suis pas une personne très angoissée et je pense que ça m'aide beaucoup. Donc, je me suis dit, faut sauter le pas, quoi. Et j'allais pas retrouver un boulot de vendeuse à Nantes, en fait. C'était Bonton, c'était toute une histoire. C'est que j'étais tombée in love de la boutique, des filles qui travaillaient là-bas, de la marque. Et donc, c'est pour ça que j'étais bien et que j'avais... Et en plus, quand je suis arrivée, j'étais beaucoup plus jeune, je sortais de mes études. Là, j'avais pas du tout envie de retrouver ça à Nantes. Et c'est surtout, les loyers sont quand même beaucoup moins chers. Donc, on allait, tu vois, j'avais le chômage, puisque j'avais... C'est aussi ça, faut prendre ça en compte. C'est pas du tout profiter du système. Au contraire, ça m'a aidée à lancer ma marque. Parce que j'avais quand même travaillé pendant 5 ans, donc j'avais le chômage, ça... plus congé mat et compagnie, je t'épargne tout le truc, mais ça a été une aide. J'ai pas eu d'aide de la CCI ou de prêt bancaire ou je ne sais quoi. L'État français m'a aidé et a contribué à ce que j'ai ce petit tapis pour commencer, quoi.
Ouais. Bah, on dit souvent ça, hein, que l'État, c'est vraiment le premier investisseur des entrepreneurs en France.
Ouais, et tant mieux, parce qu'aujourd'hui, je leur bouche des gens, donc je le rends.
Ouais, non, c'est top. Mais c'est bien que tu le précises aussi, parce que, tu vois, parfois, c'est tellement utile aussi d'avoir un an pour...
Oui, et aussi, il n'y a pas de honte. C'est mal vu parfois, un peu, genre, je profite du système. Bah non, puisque j'ai créé quelque chose et ça m'a lancé, ça m'a aidé ensuite. C'est un peu une béquille que tu as au début et puis que tu lâches un moment, quoi.
Et donc ça te prend combien de temps, à peu près, pour te verser un salaire full-time sur ta boîte ?
Ça a été long. Il a fallu l'arrivée de mon associé en 2017. Parce que aussi, je pense que j'étais là, je culpabilisais, je voulais vraiment tout mettre dans la boîte. Et comme j'avais ces aides, j'ai eu je ne sais pas combien d'enfants entrent. Je ne sais pas, j'ai eu 2 enfants. Donc, je cumulais congé mat, etc. C'était pas... Au début, j'arrivais à m'en sortir sans. Mon associé, à un moment, il m'a dit « Bon, stop, il faut qu'on se paye. » Et en fait, non, surtout... Elle avait besoin que je la paye, donc je l'ai payée.
Ok, attends, parce qu'il faut qu'on revienne sur cette histoire d'associé.
Donc, premier salon 2014, septembre 2014, ouais. Et un salon, je crois que c'est 2017, janvier 2017, un salon Maison Objet. C'est une... Alexandra, je l'ai rencontrée chez Bonton. Elle était vendeuse comme moi en temps partiel, et elle était vraiment dans tout ce qui était rédac... elle adore écrire des histoires communication autour. Elle était très forte en communication. Et donc, on s'est trouvés très complémentaires. On rigolait des mêmes choses. On voyait la vie pareille. Donc, on s'est dit, génial. Enfin, moi, à ce salon-là, je me suis sentie très seule parce que je voyais aussi toutes les autres marques et ils étaient plusieurs. Moi, je ne pouvais pas lui faire pipi, je ne pouvais pas manger. Enfin, tu sais, ton stand, tu es obligé d'être toute la journée. On ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui passe. Souvent, je demandais à des copines de me dépanner. Et là, j'avais demandé à Alex et je sais qu'elle avait adoré venir. C'est une ambiance, c'est un truc particulier, Maison Objet. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, je ne peux plus continuer toute seule, c'est trop dur. J'ai besoin de quelqu'un, mais aussi quelqu'un avec qui partager. Tu vois, les hauts, les bas... discuter ce côté ping-pong des idées, etc. Et pour moi, c'était la personne qu'il me fallait parce que on avait cette espèce de d'admiration l'une pour l'autre et pour moi, ça fitait. Donc, je lui ai proposé qu'on s'associe. Ça a duré quand même un petit peu de temps, tout ce qui était administratif, pacte d'associés. Elle avait un job de salarié qu'elle a quitté. Donc, elle a eu le chômage un certain temps. Et ensuite, il était arrivé le moment où on s'est dit, faut qu'on se paye.
Et quand vous vous dites ça, vous êtes capable de vous payer.
C'était un petit salaire au départ, mais on a réussi.
Est-ce que sur le développement, donc trouver les clients, etc. Est-ce qu'il y a eu des moments plus compliqués ou des obstacles, des choses que tu n'avais pas anticipées et qui ne se sont pas du tout passées comme tu avais prévu ?
Le premier salon, ça a été très dur parce qu'ils m'ont mis avec la papeterie de supermarché dans le fin fond d'un hall. Moi, j'ai une marque un peu plus lifestyle qui correspond aux boutiques concept store. Et ils m'ont mis vraiment papeterie, tu vois, de masse, ouais. quoi. Et j'étais vraiment invisible et pas connue. Et grâce aux filles de My Little Day, donc c'est une marque d'objets et d'accessoires pour les anniversaires, de fournitures d'anniversaire, qui rachetaient mes invitations d'anniversaire et on s'est rencontrés comme ça, elle m'envoyait des clients. Sur mon stand parce que j'avais personne qui venait me voir quoi. Donc effectivement ça c'était hyper dur et heureusement qu'elles étaient là.
Quand t'as payé le prix
C'est très cher mais je suis rentrée à chaque fois, à chaque salon je suis rentrée dans mes frais et c'est quand même, ça reste une visibilité, une vitrine extraordinaire pour rencontrer des clients, pour la presse, pour tout quoi.
Mais donc oui, au-delà de ça t'as pas eu forcément tant de difficultés que ça à développer?
Si, il y a toujours des galères à ça, des galères de prod, tu reçois ta marchandise, c'est pas ce que tu avais commandé, des galères de clients qui payent pas, il y a vraiment, c'est vraiment, on s'ennuie pas, hein, c'est semé d'embûches le parcours d'entrepreneur et de chef d'entreprise, quoi. Mais tu vois, je pourrais pas te citer de galères majeures, il y en a tout le temps, même aujourd'hui, tu vois, la prod qui n'arrive pas à temps, ou tu fais des précommandes et le produit, finalement, il n'arrive pas comme il faut, tu dois rembourser les gens, des étiquettes mal imprimées, enfin, tu vois, des trucs.
Ah, donc tu as quand même des trucs comme ça.
Ah bah évidemment, mais tout le monde, je pense, enfin.
Mais t'as quand même, j'ai l'impression que tu as quand même une gestion de ce genre de trucs hyper zen.
Ouais. Tu vois, en fait, ça ne m'empêchera jamais. Alors, peut-être, hein, mais ça ne m'a jamais empêché de dormir. Et je pense que c'est un tempérament. Je vois, j'ai plein d'amis, de proches qui sont hyper angoissés. Et dès qu'il y a une décision à prendre ou un truc qui se passe, c'est catastrophique. Et moi, je me dis, c'est un métier kiff. En fait, à chaque fois, je me dis, au pire, qu'est-ce qui pourrait se passer? Tu vois? Je fais faillite, c'est le pire qui pourrait se passer. Je fais faillite, je peux pas payer mes salariés, bref, liquidation. Je touche du bois, mais il y a du bois là. Mais voilà, c'est le pire qui pourrait se passer. Et tu vois, et je me dis toujours, et alors, je rebondirai, je ferai autre chose. Tu vois, ce sera pas la fin du monde. J'ai suffisamment confiance en moi pour me dire, tu as des ressources, tu arriveras à trouver autre chose qui te plaît et qui te fait vivre, quoi. Donc, en fait, je pense que aussi le fait d'avoir des enfants, ça te fait relativiser vachement de choses. Et moi, tant que mes enfants sont en bonne santé, que j'ai un toit sous ma tête et je peux les nourrir, tout va bien, en fait. Tu vois,
ouais, c'est marrant que ce soit, parce que parfois c'est aussi l'inverse, le fait d'avoir des enfants ça te rajoute aussi de la pression.
Ah bah ouais, après c'est exactement, verre à moitié vide, ouais. À moitié plein, moi je vois le verre à moitié plein et je me dis c'est le principal, qu'ils aillent bien et je finirai pas sous un pont, enfin je pense pas, tu vois, je pense que voilà, c'est, rien n'est grave. Comme on dit souvent dans l'entrepreneuriat, on sauve pas des vies, quoi, enfin donc tout va bien, il y a une merde de prod, on va gérer. Après, voilà, j'ai de la bouteille et enfin, je commence à avoir de l'expérience et je sais que sur le moment, tu te dis, c'est le cataclysme, je vais perdre tous mes clients. Et au final, 3 mois après, tu as oublié, quoi.
Ouais. Mais du coup, vu ce que tu me dis, je pense que tu n'as jamais eu envie, je pose cette question-là, mais tu n'as jamais eu envie d'arrêter ton projet.
Non.
Tu ne t'es jamais posé la question.
Non. Ok. Tant que ça me fait vibrer, tu vois,
ouais.
Tant que je suis contente de me lever le matin, évidemment, il y a des trucs hyper chiants que je déteste faire, mais ça fait partie du job. Attends, pour moi, j'ai la meilleure vie, quoi. Je vois mes enfants, je gère mes journées comme je veux, j'ai personne qui m'emmerde. Désolée, j'ai personne au-dessus de moi qui me demande des comptes. J'embauche des gens, je donne le sourire aux gens, tu vois, à certaines personnes avec mes produits. Je partage des choses qui me font rire, qui m'émeuvent, et je sens que certaines personnes sont réceptives. Et tant que ça sera le cas, bah, je continuerai à aimer mon travail et j'aurai pas envie d'arrêter.
Et tu disais du coup que donc vous commencez à vous payer, et après aussi tu embauches des gens.
Alors ça, c'est venu après, mais enfin aujourd'hui, j'embauche pas 1000 personnes, mais j'ai beaucoup de freelance. J'ai 4 freelance et 2 salariés, plus moi.
Ok, ouais, c'est quand même pas mal.
Et avant, j'avais mon associé.
Oui, parce que tu disais que ton associé, finalement, elle a arrêté l'aventure.
Alors l'année dernière, on s'est séparés. C'était vraiment une épreuve hyper, hyper difficile. D'ailleurs, c'est la pire épreuve depuis que j'ai commencé ma société, quoi. Parce qu'on était très, très proches, très amis. Et d'abord, on était amis, tu vois. Et en fait, il se trouve qu'on n'était plus alignés. Alors, je ne vais pas te raconter l'histoire en détail parce que c'est une histoire qui lui appartient aussi et que je ne veux pas m'étaler. Donc, en mars de l'année dernière, là, je ne dis pas que j'avais envie d'arrêter, mais j'étais hyper mal, hyper déprimée. Je pleurais tout le temps. Ça n'allait plus. Et notre couple, entre guillemets, notre relation, parce que finalement, entre associés, j'ai toujours dit, c'est ma femme du travail, quoi. Parce qu'on échange énormément. Je l'avais plus au téléphone que mon mari, parce qu'évidemment, je n'habitais pas avec elle. Mais on était très, très proches. Et en soi, notre bébé, c'était l'entreprise, quoi. Et à partir du moment où tu n'es plus alignée, que ça se passe mal, tu vois, ça faisait plusieurs... plusieurs mois que ça se passait mal, mais et on essayait de trouver des solutions. Évidemment qu'on n'a pas lâché les bras comme ça du jour au lendemain, Évidemment qu'on n'a pas baissé les bras du jour au lendemain, mais on a essayé de retrouver cet alignement qui nous était si cher et qu'on avait depuis le début. Et ce n'était pas le cas. Et moi, je me suis dit, mais en fait, je peux pas continuer comme ça. Il faut que je fasse quelque chose, quoi. Parce que là, je suis complètement déprimée. J'ai perdu le feu. J'ai perdu le. J'ai plus l'envie. Enfin, j'avais l'envie, mais j'étais plus. Mal dans mon. J'étais mal dans mon travail, dans mon quotidien, quoi.
Ouais. Bah après, c'est vrai que c'est quand. Ça se comprend parce que de toute façon, les gens évoluent. Donc, les gens à qui tu t'associes en année 1,
mais évidemment, en année 5, mais 6, c'est pas forcément... tout comme dans un couple, parfois les gens évoluent et changent. Et du coup, tu n'es plus avec la même personne. Et là, c'était le cas parce qu'il y a eu des maternités, parce qu'il y a eu des déménagements et plus les mêmes envies, l'investissement, pas forcément la même envie de s'investir, etc. Enfin. Je sais pas, je veux pas du tout parler pour elle. Mais en tout cas, j'étais sûre que fallait que ça se termine, quoi. Ouais. Je sentais, c'était physique, tu vois, genre, fallait que ça s'arrête. Et pour elle, et pour moi, et pour l'entreprise. Je savais, c'était mieux pour tout le monde, la santé mentale de tout le monde, quoi.
Et du coup, dans ta prise de décision, t'es quand même très basée sur l'intuition.
Ah ben, oui, oui. Ouais. Ben... Après, je te dis, c'était pas du jour au lendemain.
Oui.
Mais il y a un moment où je pouvais pas nier et renier l'intuition que j'avais, quoi.
Et à ce moment-là, du coup, est-ce que tu te dis, il faut que je trouve un autre associé, ou est-ce que tu dis, bon,
Non. Alors, tout comme quand tu te sépares de ton mec, tu dis pas, faut que je retrouve un. Enfin, si, il y a des nanas peut-être. Mais moi, alors déjà, j'avais le cœur brisé. j'avais évidemment très peur parce que Alex, elle incarnait aussi la marque, tu vois. On se montrait beaucoup à deux. C'était aussi sa marque. J'avais peur de continuer toute seule, que ça ne marche pas. Et au final, je me suis rendue compte que j'y arrivais. Et ça m'a donné confiance en moi aussi de voir que j'y arrivais toute seule. Aujourd'hui, je suis très contente d'être toute seule. Mais ça ne veut pas du tout dire que je regrette de m'être associée. C'était 6 années extraordinaires et ça m'a porté, et évidemment que ça a apporté beaucoup à la marque. Et je ne dirais jamais à quelqu'un, ne t'associe pas, tu vois, je ne suis pas dégoûtée de l'association, mais je ne m'associerai plus, tu vois.
Okay.
C'était une belle histoire qui est terminée et je n'ai pas envie de recommencer. à partir du moment où je m'en sors toute seule, enfin toute seule évidemment, j'ai une équipe, mais je me dis toujours que je pourrais trouver quelqu'un, soit en freelance, soit en salarié, qui va m'aider sur certains points. Et l'erreur que j'ai faite en m'associant, l'erreur qu'on a faite en s'associant, c'est qu'on pensait être complètement complémentaires. Et ça, là, c'est vraiment un conseil que je donne. Parce qu'on voyait les choses de la même façon, mais en fait, finalement, moi, j'étais très com et marketing. Elle était com et marketing, mais moi aussi, c'était une partie qui ne m'était pas complètement étrangère et que j'arrivais très bien à maîtriser. Il m'aurait fallu quelqu'un de très chiffres, tu vois, de très business-oriented, plan de, tu vois, business plan, tac, 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 tableau Excel, etc. J'ai cette personne maintenant, aujourd'hui, dans l'équipe qui n'est pas associée, mais je pense qu'à la base... Mais bon, en même temps, je déteste, tu vois, j'ai pas de regrets, j'ai pas du tout envie de refaire l'histoire. Mais c'est un conseil que je donnerais aux gens, de vraiment de chercher la partie où vous avez un manque, quoi, où vous n'êtes pas fort, et trouver quelqu'un qui est hyper fort dans cette partie-là.
Et aujourd'hui, du coup, donc ta boîte, tes principaux clients, c'est qui? Tu vends plus à des distributeurs, ou tu vends aussi, tu vois, en termes de... Je ne sais pas si tu peux vraiment donner des détails, mais tu vois, qui sont tes principaux clients? Est-ce que c'est plus du direct, ou est-ce que c'est encore du wholesale?
On va dire 50-50.
D'accord.
C'est que le wholesale, c'est... Tu vas faire plus de volume parce qu'une boutique va te commander... 30 t-shirts, 15 parapluies, tu vois, du coup, forcément, tu t'avides une commande à 2 000 euros, alors que ton site, c'est 100, tu vois, moi, c'est pas des produits très chers, donc c'est entre 60 et 150 euros, donc il faut faire plus de commandes sur le site, mais tu marges plus, parce que t'as pas la marge des boutiques, tu payes, tu vends plus cher au client qui vient acheter sur ton site qu'au client boutique, quoi.
Ouais, mais c'est intéressant.
En fait, c'est bien les deux parce que, enfin, moi, je trouve que, je sais pas comment font les gens qui vendent que en direct ou que en boutique, puisque finalement, tu fais vachement plus de volume et ça me permet, souvent, quand tu vas voir un fournisseur, une usine, eh ben, il va te demander 500 quantités minimum, tu vois, 300, 500. Bah, comment tu fais pour écouler ces 300, 500 sur ton site par toi-même? Alors qu'en fait, si tu les revends aux boutiques, ben, forcément, c'est plus facile.
Et ce réseau-là, donc des boutiques, parce qu'il y a pas mal, j'ai pas mal en tête de personnes de la communauté qui ont des souhaits, tu vois, de lancer une marque ou de lancer des projets avec des objets qui sont physiques. Qu'est-ce que tu peux conseiller pour quelqu'un qui a envie de se lancer aussi en wholesale et de ne pas vendre que sur son site? Est-ce qu'il y a des choses à savoir avant de te lancer?
Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, je commencerai par cette plateforme qui s'appelle Faire, F-A-I-R-E. Okay. Qui est une plateforme américaine et qui est super parce que, alors évidemment, ils prennent une com, mais tu mets tes produits comme un catalogue, un peu comme un site en ligne, et tu vas toucher des boutiques partout dans le monde. Alors, le problème, c'est que le minimum de commande, il n'est pas énorme, je crois que c'est 100 ou 200 euros, alors que nous, quand les boutiques commandent en direct, c'est un petit peu plus. Mais tu peux vendre à une boutique dans le Nebraska, tu vois, et c'est génial parce qu'ils vont aller sur faire leur petit shopping pour leur boutique et ils vont voir ta marque, tu vois. C'est comme un salon, mais digital. Donc, avant le salon qui est hyper cher, hyper contraignant, je pense qu'il faut commencer par ce genre de plateforme. Il y a encore Store aussi, j'ai jamais fait, mais je suis juste sur Faire pour le moment. Et je pense que c'est une solution hyper, hyper maligne pour commencer.
Super tips.
Ouais.
Et après, sur le process créatif, est-ce que tu as dû faire des concessions à un moment? Est-ce que tu as toujours ces envies? Est-ce que tu as des baisses de créativité? Ou est-ce que toi, ce n'est pas un problème pour toi? Et deuxièmement, entre ta créativité, ce que tu as envie de créer, et ce que tu dois vendre, est-ce que parfois, c'est compliqué de matcher les deux?
J'ai toujours des idées. Alors, pas toujours toute la journée, mais quand j'ai une idée, je la note. Et après, je reviens dessus. Et quand... je sens que je suis dans... Tu sais, c'est un peu genre, parfois, tu as des moments de la journée. Même pour les gens qui écrivent. Je sais que, par exemple, le matin, il y a beaucoup de gens qui se lèvent très tôt le matin pour écrire parce que tu as le cerveau complètement libre.
J'ai vu beaucoup des... Moi, je lis beaucoup ça, mais je ne connais personne qui le fait vraiment.
Ah oui?
Ouais.
Moi, j'aimerais... Qui j'ai écouté dans un podcast ou lu, je ne sais
qui
plus.
Qui fait ça?
Qui fait ça. Okay. Et j'ai trouvé ça génial. Un peu, tu sais, en mode morning routine,
ouais,
genre,
ouais.
flow de pensée, etc. Mais non, mais là, dans ce contexte-là, dans ce cas-là, c'était... Ah bah si, c'est Camille Aumont-Carnel que j'ai écouté dans le podcast de Génération Do It Yourself, qui disait que, bah, elle se levait du matin à 4 heures et que du coup, elle écrivait des bouquins genre en 30 jours, tu vois.
Ouais.
Mais je pense que la fille, c'est une machine. Mais j'ai retenu ce truc de... Effectivement, tu as des moments de la journée où tu es beaucoup plus créatif. Mmh. Et moi, je sens quand, ça ne vient pas. Par exemple, quand je dois écrire mes fiches produits, parfois, je suis bloquée, quoi. Je n'ai pas d'inspi et je me mets aussi beaucoup la pression, alors que je devrais juste écrire une phrase lambda plutôt que de faire des blagues ou de trouver des jolies petites rimes. Mais comme c'est mon truc et que j'ai envie que ça diffère un peu de la page produit de Intel, j'essaye de me donner un minimum dans la rédaction. Et quand ça ne vient pas, bah, j'arrête. Et je fais autre chose. Et par contre, parfois, je suis dedans et paf, 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 ça déroule hyper vite, en fait. Donc, les idées... je ne me suis jamais sentie en panne d'idées, genre pendant une semaine. C'est des moments de la journée. Donc, non, ça va. Et tu me disais, les fails, est-ce que j'arrive pas à développer des idées?
Oui, est-ce que parfois, il y a des choses qui sont juste, tu vois...
Alors moi, parfois, je vais souvent au bout de mes idées parce que je suis convaincue du truc et souvent, ça marche. Quand j'ai une idée, je me dis, mais idée de génie. Et souvent, souvent, les gens sont réceptifs. Je ne dis pas tout le temps, mais par exemple, le bisou, c'est trop con, hein, mais j'ai écrit le mot bisou sur une toute petite carte, donc, qui était du coup forcément mignonne parce que petite, avec un cœur rouge en dessous. C'est pas non plus une révolution.
Ouais.
Mais je me suis dit, ça, il y a un truc. Il y a un truc avec le bisou, le mot, les deux syllabes. Même la typographie des lettres est jolie. Enfin, tu vois, genre, même le B, le I, tout va bien ensemble. J'étais certaine qu'il y avait un truc. Et résultat, j'ai développé. Et c'est devenu mon design phare. Tu vois, aujourd'hui, c'est Mathilde Bisou, quoi. Et les gens connaissent la marque. Et parfois, exactement, ils croient que la marque s'appelle Bisou. Et c'est pas grave. Tu vois, je me dis, putain, j'aurais dû appeler ma marque Bisou. Et en fait, bon, aujourd'hui, je suis quand même contente que ce soit autre chose. Mais non, quand je fais par moi-même, je vais au bout, parce que je suis assez... je suis fonceuse, quoi. J'ai confiance et je sais que je vais aller au bout. En revanche, c'est quand je fais des collabs. Parfois, c'est très frustrant quand je fais des collaborations avec des marques. Et bien, évidemment, derrière, tu as genre 50 personnes qui vont te dire « Ah oui, mais non, mais te font refaire 15 fois. » Et toi, tu avais une idée très précise de ce que tu voulais, sauf que bah, eux, ils veulent pas, tu vois. Et eux, ils voulaient un truc qui est moins toi, enfin, qui est moins moi. Et donc, forcément, là, c'est beaucoup plus frustrant. Parce que moi, en fait, quand je suis avec ma marque, j'ai personne qui me dit bah, « Non, ne fais pas ça, ça marchera pas. » Alors évidemment, parfois, je fais des trucs qui ne marchent pas. Hein. Mais je veux dire, quand j'ai une idée, une envie, je vais au bout. Alors que quand je fais avec une collab, avec notre marque, forcément, il y a d'autres contraintes.
Ouais. Et j'avais une question aussi qui n'a rien à voir, mais que je trouve très intéressante. Comment tu fais pour te recentrer sur toi quand, je ne sais pas, parfois, tu as de la fatigue, ou tu n'as plus de batterie, ou tu vois des moments où soit tu es épuisé physiquement, psychologiquement. Est-ce que tu as des petits rituels ou des choses que tu fais?
Alors, c'est drôle parce que j'en ai parlé aussi hier dans un podcast que j'ai enregistré, vachement plus wellness, etc.
Okay.
Mais bon, c'est toujours intéressant. Moi, je suis très, très, très fan du sommeil. Et je pense que c'est complètement... tu vois, c'est pas du tout assez mis en valeur. On en parle très peu, alors que c'est une méthode naturelle. Alors... Évidemment, ce n'est pas donné à tout le monde de trouver le sommeil, malheureusement. Mais c'est une méthode naturelle. C'est vraiment, ça te requinque. C'est pas, tu ne prends pas de vitamines, tu ne mets rien à l'intérieur de ton corps. Tu fais juste, soit tu fais une sieste, soit tu vas te coucher tôt. Une bonne nuit de sommeil, mais ça remet les idées en place à fond. Ou moi-même, souvent, je fais la sieste. Alors, je trouve ça horrible parce que ça fait hyper tir au flanc de dire ça. Ça fait genre, la meuf, elle fait la sieste, quoi. La flemmarde, ok, elle n'est pas pressée dans sa journée, mais au contraire, ça, parce que moi, j'ai la chance d'arriver très vite à m'endormir. Donc, parfois, je mets 5 minutes, je dors à m'endormir, je dors un quart d'heure. Bah, tu vois, c'est quoi? C'est 20 minutes de ta journée? Sachant que je ne sors pas pour le déj, tu vois. Et bah, pour moi, c'est hyper efficace, il n'y a rien de plus efficace. C'est comme faire un footing, en fait, ça te remet les idées en place et paf, après je suis repartie pour une journée parce qu'aussi je me lève très tôt le matin, donc je suis quand même assez fatiguée. Et après, c'est toute une hygiène de vie, le sport, bien manger. Moi, j'adore me faire des soirées où je fais skincare de ouf. Je prends un petit bone broth, tu vois, un bouillon de poulet. Je regarde Friends et je me couche tôt. Et ça y est, tu vois, c'est... En fait, c'est juste... C'est plus une hygiène de vie générale. Et évidemment, je ne fais pas ça tous les soirs et je sors et je bois du vin et tout. Mais une hygiène de vie générale qui fait que je vais être... Je vais être bien. Donc, je n'aurai pas forcément besoin de me recentrer. Parce que je sais que si je... Par exemple, je sais que si je perds mon sommeil, ça dérape. Quoi.
Ouais, je comprends. Non, moi, je suis vraiment de la même team que toi. Et je ne comprends pas les gens qui disent « Ouais, on dormira quand on sera mort. » Et tout, pour moi, c'est tellement primordial.
Ah, mais surtout qu'on m'a dit un truc qui m'a traumatisée. Je ne savais pas. Genre, il y a 3 ans, mon beau-frère, il m'a dit « Le sommeil qu'on a perdu, on ne le récupère jamais. » Et ça m'est resté, je me suis dit, mais c'est horrible. Ça veut dire que si tu fais 3 nuits, tu dors pendant 72 heures d'affilée, ça ne rattrape pas les heures de sommeil que tu as perdues, par exemple, quand tu as eu un bébé. Et non, tu ne récupères jamais sur ton sommeil. Et là, j'étais là. Oh. Donc, pareil, quand je dois me lever à 5 heures, je me dis, j'essaye de faire minimum 7 heures, des nuits de 7 heures. Ouais. Et le 8, c'est le must. Quoi. Non, mais tu vois, on n'en parle pas du tout assez. Genre, souvent, les gens, ils sont là, oui, bah moi, soit je prends des compléments alimentaires, je fais du sport, machin, machin, mais juste dormir, quoi.
Ouais. Moi, mes journées sont radicalement différentes si je me réveille à 6 heures ou si je dors correctement.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent ? Alors, ça peut être dans ta vie pro ou perso. Ça peut être des gens de ton entourage ou des gens qui sont morts, enfin peu importe, tu vois. Est-ce que tu as des grandes figures ou des gens qui sont un peu des référents, tu vois, qui vont te donner de l'énergie?
Forcément, ma mère, je l'admire beaucoup. J'adore Magali Lehuche, qui est une illustratrice, et je trouve que Oliver Jeffers aussi. J'adore les illustrateurs, je trouve que leur travail est extraordinaire, ça fait rêver, ça t'emmène dans un autre monde, toutes les petites vignettes, tu dis mais le travail, et alors que franchement, le monde de l'édition, il faut en faire des bouquins pour se rémunérer, et c'est trop dommage, tu vois, mais c'est comme les infirmières, comme plein de boulots, c'est pas du tout assez reconnu, et sauf que bah, évidemment, je suis sensible à l'illustration, et donc Magali Lehuche, tous ses livres, je les adore, ils me font rêver, ils me font voyager, passion. Bah, Pénélope Bagieu, voilà, dans son genre, elle a un petit peu... Ouais, elle est assez incroyable avec toutes les BD Les Culottés, mais je l'adorais déjà avant. Tu vois que son style a énormément évolué, que c'est une bosseuse de malade. C'est vrai que je suis très dans l'illustration, mais j'essaie de
bah non, mais c'est bien.
Penser... j'adore les artistes, quoi.
Du coup, dernière question. Rituel de ce podcast pour toi qui est... Qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens qui ont envie de basculer ?
De pas trop réfléchir. C'est de se lancer. Et de pas... en fait, si tu te lances pas, tu verras jamais, quoi. Donc, après, effectivement... En fait, tu sais, cette citation, « Le mieux est l'ennemi du bien ». Eh ben moi, je pense que c'est ça, quoi. C'est vrai. Faut avoir une idée, se lancer, et tu peaufines ensuite.
Ouais, c'est par itération en fait. Toi, tu fais, d'abord tu sautes.
Ouais.
Et après tu.
Et après je vois comment j'atterris.
Non, mais t'as raison. C'est une bonne. Enfin, c'est ce que je conseille aussi souvent. C'est difficile de trouver le juste milieu entre. T'as quand même une période où tu te poses parce qu'il faut pas non plus faire n'importe quoi. Enfin, tu vois.
Oui, oui.
Quitter ton job, quitter tes enfants, enfin voilà. Donc t'as quand même une petite partie où il faut se poser, mais après en fait, il y a toujours une partie que tu pourras pas maîtriser.
Après il y a. Aussi cette phrase qui est très vraie, vaut mieux avoir des remords que des regrets, tu vois. Vaut mieux faire, au moins tu n'auras pas de remords de ne pas avoir fait, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Tu n'auras pas de regrets de ne pas avoir fait, ce que je veux dire.
Non, je comprends. Je comprends, très clair. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est principalement donc, soit ton site, soit ton compte Instagram. Moi, je sais que je te suis principalement sur Instagram, mais est-ce que tu as peut-être d'autres réseaux?
En vrai, LinkedIn, c'est pas mon truc. Mais bon, je suis quand même. Mais Instagram, je suis sur TikTok, mais pour faire des âneries. C'est pas vraiment... Bon, après, si les gens, ça les fait marrer d'aller sur TikTok, qu'ils aillent voir mon TikTok. Et ouais, Instagram, Mathilde Cabanas.
Ok.
Et mon site internet, mathildecabanas.com.
Ok. Super. Eh ben, merci beaucoup, Mathilde.
Merci, Sarah. Bisous.
Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.